les conférences de sciences humaines du Cégep de Thetford. Lundi 4 avril, midi. Féminisme, parcours historique et actualité. Une conférence de Catherine Dussault-Frenette, doctorante en études françaises, Université de Sherbrooke, membre du réseau québécois en études féministes.
Bonjour, comme Jonathan l'a dit, je m'appelle Catherine Souffrenette, je suis au doctorat en littérature à Sherbrooke. Je suis en littérature, mais je m'intéresse vraiment beaucoup aux études féministes. J'ai travaillé beaucoup là-dedans, mon projet de recherche s'inscrit là-dedans aussi. Et je vous présente, donc, ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est de démystifier dans une certaine mesure le féminisme. Qu'est-ce que c'est être féministe en 2016? Donc, ce que je propose, c'est de faire un parcours historique pour voir d'où ça vient, les mouvements féministes, de quoi ça s'est construit, et pour arriver ensuite à l'actualité, donc aujourd'hui, pourquoi être féministe en 2016 finalement. Donc, c'est une introduction générale, comme Jonathan le disait. Je veux vous remercier d'ailleurs pour votre accueil, puis pour remercier les professeurs aussi qui s'occupent de la semaine thématique de m'avoir invité, m'en fait confiance, je suis vraiment très reconnaissante. Donc voilà, je me présente, je suis féministe, comme vous vous en doutez, pour plusieurs raisons que je vais énumérer tout au long de la présentation. Mais je suis d'abord ici justement pour démystifier la question du féminisme. On en entend beaucoup parler dernièrement, au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Il y a une espèce de résurgence du féminisme, du mot qu'on entend de plus en plus. Il y a certaines femmes qui se disent ouvertement féministes. Il y en a d'autres qui refusent l'étiquette. On pense à l'hystério, à ces dernières affirmations, comme quoi la ministre de la Condition féminine, comme quoi elle refusait de se dire féministe. Et Stéphanie Vallée aussi, ancienne ministre de la Condition féminine et actuellement ministre de la Justice, qui refuse de se dire féministe, qui se disent davantage égalitariste, humaniste. Donc voilà, donc ça leur a remis le débat sur la place publique. Il y a certains hommes aussi qui disent féministes de plus en plus. Donc, c'est vraiment un mouvement qui connaît une certaine résurgence, un certain renouveau dans les derniers mois, voire dans les dernières années. Et surtout, dit-on, chez les jeunes femmes environ de 25 à 35 ans. Il y a beaucoup d'initiatives sur le web dernièrement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si on serait mieux de fermer la lumière à l'avant ou si ça va. Ça va? Ah, OK, vous avez un écran là, parfait. Donc, il y a plusieurs pages Facebook qui ont vu le jour dernièrement. La page Nous sommes féministes, je ne sais pas si vous avez déjà exploré un peu cette page-là, qui est vraiment très intéressante. Donc, on a des photos de jeunes féministes et qui expliquent pourquoi elles ont besoin du féminisme aujourd'hui. C'est une page qui a été créée justement en réaction à la déclaration de l'hystério. Il y a la page aussi Je suis féministe, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une page web où il y a publication d'articles fréquemment. C'est un lieu d'échange, de réflexion. De discussion, donc vraiment qui est très, très intégrée par les jeunes féministes. Donc, c'est vraiment très intéressant si ça vous intéresse d'aller voir de ce côté-là. Il y a de plus en plus de jeunes femmes aussi qui se disent féministes, des femmes qui ont une certaine tribune, qui s'affichent comme féministes. On pense entre autres à Aurélie Langteau, qui est chroniqueuse au journal Ricochet, collaboratrice à la Gazette des femmes et qui est l'auteur aussi du livre de l'essai « Les libéraux n'aiment pas les femmes ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, l'impact des mesures d'austérité sur les femmes en ce moment, c'est vraiment très intéressant. Judith Lucier aussi, qui s'affirme ouvertement féministe, qui est journaliste pour le journal Métro. Véronique Grenier, qui est chroniqueuse pour Urbania et qui est porte-parole de la campagne « Sans oui, c'est non », qui porte sur le consentement, qui fait le tour des campus universitaires. Et Amandine Gay, en haut à droite, qui a réalisé dernièrement un documentaire sur l'afroféminisme. Donc, ce sont vraiment des femmes qui ont une certaine influence, qui ont une certaine tribune, qui prennent la parole ouvertement et qui se disent féministes. Donc, ça marque vraiment le paysage médiatique. Donc, on assiste vraiment à un renouveau. Mais évidemment, avec la réaffirmation d'un mouvement, viennent parfois, malheureusement, des contre-discours, des résistances et des déformations aussi, d'où l'importance aujourd'hui de remettre un peu les pendules à l'heure et de démystifier qu'est-ce que c'est le féminisme. Donc, ce que je propose, c'est de faire le point sur l'actualité des mouvements féministes en faisant tout d'abord un retour en arrière pour regarder ensemble d'où ça vient. Donc, quelles sont les origines des mouvements féministes, de quoi ça s'est construit pour voir où on en est rendu aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que le féminisme? Donc, c'est difficile de donner une seule vraie définition tellement il y a de courants différents, tellement il y a de mouvements différents au cœur même du féminisme. D'ailleurs, c'était pour ça le S dans le titre de ma présentation, donc féminisme au pluriel. On devrait davantage parler des féministes plutôt que du féministe, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui traversent ce mouvement-là. Le milieu féministe, évidemment, c'est un espace de lutte, mais c'est aussi un espace où on confronte nos idées, où on discute beaucoup, où on met à l'épreuve nos convictions, et c'est d'ailleurs ce qui permet d'enrichir les mouvements et de faire toujours avancer. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas une seule façon d'être féministe. Il s'agit évidemment de choisir le modèle qui nous convient tout en respectant ses convictions. Mais si on veut revenir à la base, donc l'élément qui rassemble toutes les féministes, c'est bien sûr la volonté d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, et ce, sur tous les plans. Et de manière plus globale, même si on veut aller plus loin, les féministes veulent l'égalité entre personnes de tout genre, de tout sexe, de toute race, de toute classe sociale, de tous âges, et ce, sur tous les plans. Et si on va aller pour une description un petit peu plus détaillée, il y a Louise Toupin, qui est chercheure en sciences politiques, qui propose une définition un petit peu plus élaborée. Donc, pour elle, le féminisme, c'est une prise de conscience d'abord individuelle, puis ensuite collective, suivie d'une révolte contre l'arrangement des rapports de sexe et la position subordonnée que les femmes y occupent dans une société donnée, à un moment donné de son histoire. Et il s'agit aussi d'une lutte pour changer ces rapports et cette situation. Donc, ce qui ressort de cette définition-là, c'est que la lutte féministe, finalement, se fait en deux temps. Donc, dans un premier temps, c'est une prise de conscience qui se fait sur le plan individuel, prise de conscience dont des mécanismes d'oppression qui assujettissent des femmes, prise de conscience de l'iniquité des positions, pour aller ensuite vers le collectif, donc pour aller vers la lutte collective, une lutte pour enrayer la domination. Donc, c'est une révolte qui est à la fois personnelle et collective. Au Québec, on entend souvent que l'égalité, elle est déjà atteinte. On entend dire que les femmes ont aujourd'hui les mêmes droits que les hommes, qu'il y a des lois qui nous protègent et qu'il y a des lois qui protègent nos acquis. Il y a ce que Christine Delphi, qui est une féministe de la deuxième vague, je vais y arriver tout à l'heure, appelle le mythe de l'égalité déjà là. Parce que c'est vrai, c'est un mythe. Et ce qu'il faut retenir à travers ça, c'est qu'une égalité de droit n'est pas une égalité de fait. C'est-à-dire qu'entre le texte de loi, entre les chartes, les programmes qui sont mis en place, et les faits, le quotidien, il y a une marge qui est souvent très grande. Donc, oui, il y a des programmes, oui, il y a des lois, mais monsieur, madame, tout le monde ne va pas changer de comportement du jour au lendemain parce que ça devient soudainement écrit donc, dans les textes de loi. Et il y a tout un travail donc, de conscientisation à faire pour changer les mentalités, et c'est ce que cherchent à faire les féministes. Et donc, pour prendre la mesure de ce qui reste à faire aujourd'hui et de démystifier en même temps donc, ce qu'est le féminisme, je pense qu'il faut connaître son histoire. Il faut savoir d'où ça vient, donc je propose de faire un bref survol des mouvements historiques au Québec depuis les origines. Donc, j'avais oublié ma petite section. Donc, par contre, c'est vrai que les apports des mouvements féministes, donc, quand on fait l'histoire des mouvements féministes, on regroupe souvent les différentes périodes en vagues. Donc, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. L'idée de la vague, c'est pour éviter de moins faire une coupure entre les périodes. Parce qu'il y a eu différentes périodes, mais c'est pour montrer que les luttes quand même se poursuivent. C'est pas parce que la première vague est terminée que les luttes sont terminées. Donc, c'est vraiment l'idée de la continuation entre les périodes. Donc, la première vague du féminisme, qui se situe autour de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, donc les femmes au Québec, comme ailleurs dans le monde, vont militer surtout pour obtenir le droit de vote. C'est ce qu'on a appelé le mouvement des suffragettes. C'est un mouvement qui est très fort d'abord en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, donc, les manifestations sont très nombreuses. Les femmes vont s'enchaîner au gré, elles manifestent dans la rue. Elles ont des altercations avec les policiers, elles sont mises en prison ou elles sont nourries de force parce qu'elles font des grèves de la faim. C'est un mouvement qui a rencontré énormément de résistance. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement sur les réseaux sociaux, mais il y a eu toute une propagande anti-suffragette. Donc, vous voyez à gauche la suffragette donc, qui réclame le droit de vote, qui deviendrait subitement violente à la maison, qui va soumettre son mari. Et à droite, vous avez les origines et le développement d'une suffragette. Donc, at 15, a little pet, at 20, a little coquette, at 40, not married yet, at 50, a suffragette. Donc, qui soutient vraiment l'idée, l'espèce de gros préjugé que les femmes qui militent, que les femmes qui sont allées lutter pour acquérir le droit de vote étaient des femmes non mariées, donc frustrées de ne pas être mariées, de ne pas avoir trouvé mari. Donc voilà, c'est un mouvement qui a rencontré beaucoup de résistance. Et au Québec, c'est un peu la même chose. Donc au Québec, les femmes militent aussi, mais c'est un petit peu plus tranquille. Les femmes vont surtout distribuer des pamphlets, distribuer des livres, elles vont organiser des conférences. Mais elles rencontrent, elles aussi, de nombreuses résistances qui viennent surtout d'hommes influents. Il y a Monseigneur Louis-Adolphe Paquet, qui était à l'époque doyen de la faculté de théologie de l'Université Laval, qui va dire « Le féminisme est un mouvement pervers qui menace les bases de la famille et de la société. » Donc, on voit que dès que les femmes cherchent à prendre leur place dans la société et à obtenir les mêmes droits que les hommes, on a peur comme si tout le poids de l'ordre social reposait sur les épaules des femmes qui devaient rester à la maison, être mère et épouse au foyer. Et Henri Bourassa, qui est le fondateur du Devoir, qui est selon Micheline Dumont, qui est historienne des femmes au Québec, il est le premier grand ténor de l'antiféminisme au Québec, qui dénonce l'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive, la femme électeur qui engendrera bientôt la femme-homme, le monstre hybride et répugnant qui tuera la femme-mère et la femme-femme. Vous voyez à quel point c'est important, ce mouvement-là antiféministe contre les femmes qui luttaient finalement tout simplement pour avoir les mêmes droits que les hommes. La détermination, malgré les oppositions à la détermination des femmes, va porter fruit. Les Québécoises obtiennent le droit de vote au fédéral, je ne sais pas si vous savez en quelle année. 1918, au fédéral en 1918, et ça va prendre un petit peu plus de 20 ans plus tard pour avoir le droit de vote au provincial en 1940, et les femmes vont pouvoir voter pour la première fois en 1944. Les figures importantes de ce mouvement-là, Thérèse Cargrin, Marie-Gérin Lajoie et de la Saint-Jean. D'ailleurs, si vous allez vous promener à Québec, vous avez sûrement déjà vu ce monument-là qui est sur la façade sud de l'hôtel du Parlement. Et donc, ce sont ces trois figures importantes-là, Cargrin, Saint-Jean et Gérin Lajoie, et Clark Clun aussi qui est là, dont je vais parler un petit peu plus tard. Et donc, Thérèse Cargrin qui est à la tête de la Ligue des droits de la femme, c'est elle qui est au centre. Elle va dire, une fois que la lutte aura porté fruit, elle va dire « Notre véritable travail ne fait que commencer, le vote est un moyen et non pas une fin. » Donc la première tâche finalement des femmes, c'est d'être reconnue comme citoyenne à part entière. Parce que quand on n'a pas de voix, quand on n'est pas reconnue, quand on n'est pas légitime, évidemment on ne peut pas aller de l'avant avec le reste des luttes. Donc la première chose c'était de pouvoir s'exprimer sur le plan politique et ensuite on peut aller de l'avant avec les revendications. Mais les féministes de la première vague n'ont pas seulement milité pour le droit de vote, elles ont aussi réclamé le droit à l'instruction. Donc, elles veulent que les filles puissent poursuivre leurs études au baccalauréat. Elles veulent le droit à un travail rémunérateur. Il faut savoir qu'à partir du moment où les femmes étaient mariées, elles perdaient tous leurs droits. Elles étaient désormais confinées à la maison. Leur travail était d'élever les enfants et de s'occuper de la maison. Donc, elles étaient confinées au travail domestique. Travail qui est un travail de 7 jours sur 7, là, qui est plusieurs heures par jour et qui, dans l'histoire, je le rappelle, n'a jamais été rémunéré. Donc, les femmes n'avaient pas le droit de sortir travailler et elles devaient travailler à longueur de journée, mais ce travail-là n'a jamais été reconnu comme légitime. La féministe matérialiste en moi qui parle. Donc, elles étaient complètement soumises économiquement à leur mari et elles veulent aussi modifier le code civil, donc qui les rend entièrement indépendantes de leur mari, et elles veulent augmenter l'âge légal pour se marier, qui était alors fixé à 12 ans. En 1949, en France, paraît un ouvrage dont vous avez certainement entendu parler, donc Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dans lequel elle va dire sa fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Et quand elle écrit ça, Simone de Beauvoir, elle inspire toute une génération de femmes. Elle est la première à soutenir dans un essai sur la condition des femmes, que la domination des femmes, elle n'est pas naturelle, c'est-à-dire qu'on a longtemps cru que les femmes étaient inférieures aux hommes parce qu'elles étaient nées femelles, parce qu'elles étaient biologiquement inférieures. Et elle est la première, donc il va soutenir de manière formelle que c'est entièrement faux. Il n'y a pas de fondement biologique à la domination des femmes. Les femmes ne sont pas inférieures parce qu'elles sont des femmes, mais elles le sont à cause du contexte extérieur, du contexte social et politique qui favorise les hommes à travers des institutions qui fonctionne par et pour les hommes et qui place les hommes donc en position de pouvoir tout en maintenant toujours les femmes dans une position subordonnée. Et ce système-là, c'est ce système-là qu'on va appeler plus tard dans la décennie 1970 le système patriarcal. J'arrive avec les féministes de la deuxième vague. Donc la deuxième vague est autour des années 1960-1970. Les féministes au Québec sont aidées beaucoup par le vent de renouveau qui souffle au Québec, donc c'est la Révolution tranquille, c'est la fin du règne de Maurice Duplessis. On procède à la séparation de l'Église et de l'État, donc l'Église catholique qui est, surtout au Québec, un puissant instrument de domination des femmes. Donc voilà. Et il y a désormais donc des femmes dans toutes les associations politiques, culturelles, sociales. Elles sont peu nombreuses, des fois il y en a juste une, mais quand même elles sont là, elles sont minimalement représentées. 1961... Première femme à être élue à l'Assemblée législative, vous savez de qui il s'agit, on en a entendu parler la semaine dernière, Clark Clun, donc première femme élue, vous voyez qu'elle est, elle est belle. Elle est la seule parmi tout un groupe d'hommes. Donc c'est vraiment, c'est la première qui a été élue. En 1964, elle fait passer la loi 16 qui supprime la subordination légale des épouses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les femmes peuvent désormais, tenez-vous bien, signer des contrats, signer un à la banque, toutes des choses que les femmes ne pouvaient pas faire avant 1964, avant que Clark Kirkland arrive à l'Assemblée législative. Et elles ont aussi le droit d'exercer une profession différente de leur mari, ce qui n'est pas rien. 1968, la loi sur le divorce, donc qui facilite les procédures, donc on permet le divorce malgré qu'il n'y ait pas eu de fautes graves comme l'adultère, par exemple. Donc ça facilite vraiment le travail pour les femmes qui veulent s'affranchir de leur mari. Les revendications des féministes de la deuxième vague sont nombreuses et elles ont de fortes répercussions sur la vie telle que les femmes la connaissent aujourd'hui. On parle de plus en plus de la nécessité d'instaurer des garderies financées par l'État. On sait qu'elles sont essentielles si on veut que les femmes aient accès au monde du travail parce que c'est les femmes qui ont davantage la charge des enfants. Et si elles ne peuvent pas se permettre de payer les services de garde, elles ne peuvent pas se permettre d'aller travailler, elles doivent rester à la maison. Donc, on parle de services de garde financés par l'État. Ça va prendre un certain temps. Il y a quelques garderies financées par l'État qui voient jour vers la fin des années 60, mais il faut savoir que c'est très, très restreint. C'est beaucoup dans les milieux anglophones et c'est dispendieux, ce n'est pas financé. Il va falloir attendre 30 ans avant la mise en place du réseau des CPE en 1987 avec Pauline Marois. Donc, des CPE qui sont subventionnés par l'État, ce qui donne un énorme coup de main aux femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les mesures d'austérité, ces services-là sont extrêmement menacés. Dans les regroupements pour les droits des femmes, on discute aussi de congés de maternité, d'équité salariale. On veut l'accès à toutes les professions et pas seulement les professions dites féminines. Donc, on ne veut pas juste avoir accès au secrétariat, aux soins infirmiers. On veut vraiment avoir accès à toutes les professions. On veut la gratuité scolaire. On veut l'éducation supérieure des filles. Et on veut aussi l'amélioration des conditions de travail des ouvrières et le droit à la contraception qui revient au droit de contrôler son corps. La pilule contraceptive, je vous rappelle, est accessible au Canada à partir de 1969. En fait, elle est sortie, je pense, en 1964. Mais elle devient légale à partir de 1969, donc c'est vraiment quelque chose qui permet aux femmes de s'affranchir de la reproduction. Et c'est donc de tout ça qu'on est redevable aux femmes des années 1960-1970. Ce sont les féministes radicales qui ont amené tout ça. Donc il faut enlever cette image-là d'espèce de harpie, de la femme frustrée donc qui militait, mais ce sont des héroïnes. Finalement, ce sont seulement des femmes qui voulaient des conditions de vie meilleures. Et c'est de tout ça donc qu'on est redevable aujourd'hui. 1967, année importante, il y a la commission Byrd au Québec. Il y a la première et seule commission royale d'enquête sur la situation des femmes au Canada qui est présidée par la journaliste et sénatrice Florence Byrd qui est au centre. C'est l'occasion pour les femmes de présenter des mémoires sur leur situation, de se faire entendre lors d'audiences publiques. C'est la toute première fois, il faut dire, que les femmes ont un terrain légitime pour s'exprimer. Donc auparavant, oui, elles s'expriment, mais dans la rue, dans des cafés, mais là, on est vraiment dans une situation formelle où on reconnaît leurs paroles comme légitimes, donc c'est extrêmement important. Les femmes réclament, entre autres, le libre accès à la contraception et à l'avortement. Elles veulent des salaires équivalents à ceux des hommes et elles veulent un statut égalitaire pour les femmes autochtones. C'est aberrant, on a besoin de demander d'avoir un statut égalitaire pour les femmes autochtones, c'est terrible. 1970, ce sont les années qu'on appelle de la révolution féministe, le mouvement féministe se radicalise, on parle des années du féminisme radical. Il faut savoir que radical, c'est un terme qui a été un peu dénaturé avec les années. Qu'est-ce que ça veut dire radical? Ça veut dire aller à la racine de l'oppression. Quelle est la racine de l'oppression? C'est le système patriarcal, c'est le patriarcat. Et qu'est-ce que le patriarcat? La définition de Christine Delphi. Patriarcat désigne une formation sociale où les hommes détiennent le pouvoir, ou encore plus simplement, le pouvoir des hommes. Donc, c'est un système qui octroie aux hommes un surplus de pouvoir et qui confine du même coup les femmes dans une position subordonnée. Donc, cette inégalité-là des positions entre les hommes et les femmes se manifeste autant dans la sphère publique, donc dans la rue, dans les instances de pouvoir, dans la culture, que dans la sphère privée, donc au sein du couple, dans la famille, dans la sexualité. Donc, il faut voir que c'est vraiment un système qui opère partout de façon endémique. Et c'est un système qui est pensé par et pour la classe dominante, donc celle de l'homme blanc hétérosexuel de classe socialisée, et c'est contre ce système-là qu'il faut se mobiliser. Donc c'est tout ce que veut dire féminisme radical, c'est vraiment la lutte contre un système qui est le système patriarcal. Un grand slogan des années 1970, j'ai perdu la connexion avec mon PowerPoint. Le privé est politique. Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, renseignant des années 1970, le privé et politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rapports dans la vie privée sont à l'image de l'infériorité des femmes dans la sphère publique. Donc, on veut politiser ce qui est vécu dans l'espace privé, dans l'intimité, ce qui est caché. Donc, rendre le privé politique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, s'attarder au rôle de sexe. Donc, d'exprimer sur la place publique les rôles de sexe. Donc, qui fait quoi dans la maison, dans la famille? L'organisation familiale, donc, qui a le pouvoir? Qui a le dernier mot à la maison? Les tâches domestiques, qui les fait? Et la sexualité, donc, qui décide? Donc, tout ce qui était tabou, tout ce qui était intime devient sujet politique qu'on aborde sur la place publique. Donc, les femmes commencent à se rassembler, elles parlent entre elles de leur vécu de façon plus intime. Elles se rendent compte que non seulement elles ne sont pas représentées dans les instances de pouvoir, elles n'ont pas accès au même travail que les hommes, elles n'ont pas le même salaire, mais en plus, il y a quelque chose qui se passe dans la sphère privée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur même des murs de la maison. Et ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment-là qu'on commence à parler plus ouvertement de la violence faite aux femmes, de la violence conjugale. Je m'excuse, je perds le contrôle avec ma petite manette. Donc, on parle davantage de violence faite aux femmes, de violence conjugale, de viol conjugal. Vous savez qu'avant 1983, l'expression « viol conjugal » n'existait même pas. Ce n'était pas reconnu. Il manque des petites lignes. Bon, c'est pas grave. Donc, le viol conjugal avant 1983 n'était pas reconnu par la loi. Donc, les femmes étaient appropriées par le contrat du mariage. Les femmes appartiennent à leur mari. Donc, elles n'ont pas le droit de dire non. Donc, c'est vraiment l'homme qui décide, c'est le mari qui décide des rapports sexuels. Et on ne reconnaît pas justement le fait qu'une femme peut être forcée à avoir des rapports sexuels au sein même de sa maison, dans son propre lit. On veut aussi le libre accès à la contraception et à l'avortement. Et aussi, pour répondre à des besoins de plus en plus pressants, on ouvre dans les années 1970 les premières maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et on ouvre aussi les premiers CALAX, qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Dans les années 70 aussi, on commence à entendre des nouvelles voix, surtout aux États-Unis. Il y a des femmes noires qui vont prendre la parole pour critiquer l'organisation des regroupements féministes dont les figures de proue sont majoritairement blanches, de classe socialisée, des femmes éduquées. Donc, c'est un mouvement qu'on considère un peu bourgeois. Donc, le noyau dur du féminisme est très, très blanc. Donc, ces femmes-là ne se reconnaissent pas dans ce féminisme-là. Elles vont revendiquer un féminisme qui est plus inclusif. Et elles font voir que la réalité d'une femme noire, que le quotidien d'une femme noire n'est pas le même que celui d'une femme blanche. Et elle réclame la diversification du mouvement, une plus grande égalité au sein même des militantes féministes. Et c'est le début de ce qu'on a appelé le Black Feminism, donc qui est né aux États-Unis. Black Feminism, non, en français, féminisme noir, mais on garde souvent l'appellation en anglais pour respecter donc l'origine d'où c'est parti ce mouvement-là. Donc, ça a commencé surtout avec des femmes africaines-américaines, mais pas seulement, ça regroupait aussi des femmes chicanas, c'est-à-dire des femmes d'origine latino qui habitent aux États-Unis, des femmes asiatiques, avec notamment comme figure de proue Angela Davis, Bell Hooks et Gloria Anzaldúa, qui est plus du côté du féminisme lesbien chicana, mais qui quand même a les mêmes revendications, donc qui critique la blancheur des mouvements féministes. Donc, en bref, c'est un mouvement qui allie à la fois la critique du sexisme, mais celle du racisme aussi. Donc, c'est vraiment un double combat. Ils font voir qu'au sein même du groupe des femmes, il y a certaines femmes qui sont plus opprimées que d'autres. C'est faux de dire que toutes les femmes sont sur un pied d'égalité. Il y a des femmes qui sont davantage marginalisées. Et c'est ce qu'elles font voir. Donc, il y a des femmes blanches qui ont certains privilèges que des femmes non blanches n'ont pas. Et que le groupe des femmes, donc, n'est pas homogène. C'est la même chose pour les féministes lesbiennes. Il manque la photo de Susan Brown Miller. Vous irez voir sa photo sur Google Images. Donc, elles font voir, les féministes lesbiennes font voir qu'il y a une discrimination spécifique qui s'exerce envers les lesbiennes, avec entre autres Adrienne Rich aux États-Unis, Susan Brown Miller et Nicole Brossard au Québec. Donc, si le Black Feminism faisait voir que l'oppression se dessinait sur le plan du sexe, de la classe et de la race, entre guillemets, le féminisme lesbien fait voir qu'il y a davantage que ça. Il y a le sexe, la classe, la race, et on peut être opprimé aussi sur le plan de la sexualité. Et à ce niveau-là, elles font la critique de l'hétérosexualité comme institution, comme norme, comme mode de sexualité supérieure aux autres. Donc, le fait que c'est ça, que l'hétérosexualité soit posée comme vraiment la norme supérieure, que tout ce qui soit montré dans la publicité, au cinéma, dans les séries télé, ce soit toujours l'hétérosexualité, ce qui condamne les autres formes de sexualité à des positions marginales. Donc, les féministes qui vont théoriser le black féminisme et le féminisme lesbien font voir qu'il y a plusieurs niveaux d'oppression. Donc, on peut non seulement être une femme et être dominée sur le plan du sexe, mais on peut aussi être non-blanche et être dominée sur le plan de l'appartenance culturelle. On peut aussi être non-hétérosexuelle et être dominée sur le plan de l'orientation sexuelle. Et on peut faire partie d'une classe sociale défavorisée et être dominée sur le plan économique. Et donc, elles font voir que pour plusieurs, il y a certains de ces niveaux-là d'oppression, ce n'est pas tous ces niveaux-là d'oppression qui viennent jouer et qui font en sorte que ces personnes-là sont d'autant plus marginalisées. Et c'est un mouvement de contestation qui se poursuit aujourd'hui avec la perspective intersectionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette perspective-là. Donc, j'ai mis un petit graphique. C'est drôle, je parle vraiment des morceaux de mon PowerPoint. Mais voilà, donc juste un graphique pour vous montrer en quoi consiste la perspective intersectionnelle. Donc, de montrer qu'une personne peut être opprimée sur le plan de la sexualité, de l'âge, ability, donc avoir un handicap ou pas, l'éducation, donc avoir pu être allé à l'école ou pas, la langue, l'héritage, l'immigration, le statut, donc des immigrants, le fait d'être autochtone. Donc, tout ça, pour certaines personnes, s'additionne et font en sorte que ces personnes sont d'autant plus stigmatisées ou marginalisées. J'en arrive à la troisième vague du féminisme. La troisième vague commence au début des années 1980. C'est le début des gender studies ou des études sur le genre. Je ne sais pas si vous savez en quoi consiste le genre, qu'est-ce que c'est la socialisation de genre. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Un petit peu, oui. Donc, il faut savoir brièvement que le genre se distingue du sexe. Quand on parle du sexe, on renvoie surtout aux organes génitaux pour désigner l'identité d'une personne. Donc, on va davantage parler de mâle-femelle, bien qu'il y ait de nombreuses études qui tendent à montrer que la réalité biologique anatomique n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas juste du mâle, il n'y a pas juste du femelle dans la nature. Il y a vraiment, la sexualité s'étend sur un continuum. Si ça vous intéresse, j'invite à voir les travaux de Anne Foster-Sterling qui écrit un article qui s'intitule « Les cinq sexes ». Et donc, qui questionne pourquoi on catégorise les individus seulement à partir de leurs organes sexuels alors qu'on pourrait prendre en compte davantage, plus que ça. Donc, le sexe et le genre renvoient davantage à la socioculture. Donc, quand on parle de genre, on va renvoyer surtout à masculin, féminin. Donc, le genre est davantage d'ordre culturel. Le genre ou identité de genre ou socialisation de genre, c'est ce qui fait en sorte qu'une personne née avec un sexe femelle va être amenée à incorporer des normes féminines pour performer le rôle de fille ou de femme. Tandis qu'un individu né avec des organes génitaux mâles va être amené à incorporer des normes masculines pour devenir éventuellement un garçon et éventuellement un homme. Donc, ça conforte les stéréotypes de genre, l'espèce de stéréotype du cerveau rose, du cerveau bleu. Ça passe par des choses qui peuvent sembler très banales. Par exemple, vous regarderez en fait les catalogues dans le temps de Noël, donc les pages réservées aux garçons, les pages réservées aux filles. Pour les filles, on va faire ça. Et c'est toujours bleu, très, très bleu, très rose. Et pour les jeunes filles, on va vendre des poupées, on va vendre des aspirateurs, des cuisinières. Donc, vraiment, on ramène. Puis, il y a vraiment une résurgence de ça. Donc, c'est vraiment terrible. Quand il y a des événements comme Noël, justement, on va revenir à ces vieilles valeurs-là. Donc, les jeunes filles, on vend surtout des jouets qui les ramènent encore à leur rôle de mère ou au travail domestique. Tandis que les garçons, on est davantage dans les camions, les blocs Lego. Donc, des choses qui suscite davantage la mobilité, la réflexion, les réflexes, tout ça. Donc, on pousse vraiment les jeunes filles vers un rôle. On pousse les jeunes filles et les jeunes garçons vers des rôles très, très, très stéréotypés. Est-ce que j'ai gardé? Oui, j'ai gardé. Donc, les féministes de la troisième vague qui travaillent avec la perspective de genre veulent déconstruire la croyance d'une différence entre les cerveaux mâles et femelles. Si ça vous intéresse, c'est une capture d'écran d'une vidéo, c'est un TED Talk en fait de Catherine Vidal, qui est une neurobiologiste qui a fait une présentation qui s'intitule « Le cerveau a-t-il un sexe? » Et elle montre que non, en fait, il n'y a pas de différence entre les cerveaux mâles et les cerveaux femelles, que les différences qui surviennent arrivent bien après la naissance et que c'est avec la socialisation justement qu'on observe des différences entre les cerveaux. Donc, elle montre, c'est juste un extrait de son vidéo, mais elle montre bon, que le cerveau possède 100 milliards de neurones, 1 million milliard de connexions et que 90% des connexions se forment après la naissance. Donc, c'est donc dire que quand l'individu naît, les cerveaux sont pratiquement pareils. C'est le fait, c'est la différence de traitement, la façon qu'on interagit avec une jeune fille, la façon qu'on interagit avec un jeune garçon, ce qui va s'approprier comme modèle, comme jouet. Donc, tout ce qui fait partie du quotidien, c'est ça qui fait en sorte que les connexions se font de façon différente et qui conforte vraiment cette séparation-là entre les identités, qui conforte les normes de genre. Donc, il faut se rappeler vraiment que ça relève finalement du conditionnement. Il n'y a absolument rien de naturel, de biologique là-dedans. Autre chose sur les stéréotypes de genre aussi, c'est qu'on remarque que beaucoup du côté, en fait, les garçons sont poussés vers le masculin, les jeunes filles sont poussées vers le féminin, et très souvent, les valeurs qui sont associées au côté masculin sont beaucoup plus valorisées que celles qui sont associées au féminin. Par exemple, la force versus la fragilité qu'on associe davantage aux filles, la rationalité du discours masculin, donc les leaders en position de pouvoir auxquels on accorde beaucoup de légitimité, donc un discours rationnel, sérieux, tandis que du côté du féminin, on a davantage l'intuition féminine qui est beaucoup moins légitime. La discussion sérieuse versus les filles aiment se potiner, on potine entre nous comme si on n'était pas capable d'avoir des discussions sérieuses. Donc c'est vraiment, je présente les gros stéréotypes. L'autorité qui est du côté masculin versus une femme qui a de l'autorité ou qui est en position de pouvoir on va dire qu'elle va être bossée, donc c'est perçu de façon beaucoup moins légitime. Et la fameuse dichotomie, le double standard, le séducteur, le player, versus la fille qui peut être agace, pour ne pas dire autre chose. Donc, les fameux stéréotypes sexuels. Aujourd'hui, donc, quelle est l'actualité du féminisme aujourd'hui? Le féminisme aujourd'hui, comme je le soulignais tout à l'heure en introduction, comme ça a été dans le passé, c'est un mouvement qui est extrêmement diversifié. Je vous présente différents ancrages, différentes facettes du féminisme. J'ai dû couper parce que c'est un mouvement qui est extrêmement diversifié, mais j'ai dû me restreindre à quelques facettes parce qu'on a seulement une heure ensemble. Mais je vous présente quand même quelques ancrages différents. Donc, on peut parler d'une facette qui est le féminisme davantage intellectuel. J'ai retenu deux courants parmi tant d'autres, mais il y en a énormément. Donc, le féminisme, on peut parler du féminisme libéral, qui est considéré comme le courant plus modéré, disons, du féminisme. Le féminisme libéral demande bien entendu l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan de l'éducation, du travail, du salaire, sur le plan des lois civiles. C'est un féminisme qu'on pourrait qualifier de réformé, c'est-à-dire que le féminisme libéral ne vise pas à transformer le système de fond en comble. En fait, le féminisme libéral croit que la société est perfectible, que la société capitaliste est perfectible, donc il s'agit d'amener davantage de femmes dans les positions de pouvoir et on va arriver à transformer de cette façon-là. Mais elle ne remet pas en question finalement le fonctionnement de la société dans sa totalité. Il faut savoir aussi que c'est un féministe qui a davantage un ancrage politique. Quand Justin Trudeau se dit féministe, c'est davantage du féminisme libéral qui se revendique, donc les changements de loi, les changements de programme, la place des femmes en politique, donc on est davantage du côté libéral. Les moyens qui sont déployés pour lutter, donc c'est le dépôt de mémoire, des colloques, donc des lieux de discussion, mais toujours justement dans la sphère politique, la sphère des affaires. Quelques regroupements qui font davantage partie du féminisme libéral, on peut compter le Conseil du statut de la femme, la FFQ qui est la Fédération des femmes du Québec. Voilà, il y a quand même des reproches qui sont adressés au féminisme libéral. C'est un féminisme qu'on qualifie parfois d'individualiste, qui est en fait influencé par le néolibéralisme. Donc, c'est un féminisme que je vous disais qui est très ancré dans le politique. Donc, il va avoir davantage tendance à ancrer ses valeurs dans les valeurs individuelles plutôt que les intérêts collectifs. Bref, de faire passer l'individu avant le collectif. C'est un féminisme de femmes un peu plus privilégiées, non à la fois socialement, économiquement, donc un petit peu plus restreint. Quand même, il a subi avec les années l'influence du féminisme plus radical. Donc, il y a cette critique-là quand même du système qui est présente, mais on est davantage plus du côté de l'individu que du collectif. Qui s'oppose en quelque sorte le féminisme libéral au féminisme plus radical, donc, comme je le disais tout à l'heure avec les féministes de la deuxième vague, féministes radicales qui souhaitent aller à la racine de l'oppression qui est le système patriarcal. Donc, on va beaucoup plus loin que le féminisme libéral en s'attaquant à toutes les sphères où s'exprime la domination, que ce soit du domaine public ou du domaine privé. Les féministes radicales voient l'oppression des femmes comme étant quelque chose d'endémique, donc qui se manifeste absolument à tous les niveaux, que ce soit sur le plan social, donc au quotidien, dans la rue, culturel, donc au cinéma, dans les publicités, dans les séries, et à la fois aussi du côté de l'intime, donc tout ce qui touche au corps et à la sexualité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu plus global. les moyens qui sont déployés pour lutter pour les féministes radicales. C'est beaucoup la création d'une culture féministe alternative. Donc, on va chercher à créer des espaces réservés aux femmes qui vont avancer, en fait, la cause des femmes. Donc, des centres de santé des femmes, des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Ça passe aussi beaucoup par les arts. Donc, on développe des pièces de théâtre féministe, un cinéma, une littérature féministe, des essais féministes. Donc, on est davantage dans la création d'une nouvelle culture avec des nouvelles valeurs. On crée des festivals, des maisons d'édition féministes comme le Remis Ménage à Montréal ou la Pleine Lune qui n'existe plus, mais qui était une des premières maisons d'édition féministes au Québec. Des magazines dédiés vraiment à la cause féministe. Et c'est un courant, il faut savoir, qui est lui-même traversé par d'autres courants, donc la pensée davantage queer, le courant intersectionnel, la pensée matérialiste. Donc c'est vraiment, c'est extrêmement diversifié et très, très foisonnant. On pourrait en parler, on pourrait en parler très longtemps, mais ça donne quand même un portrait un peu global du féminisme qu'on dit plus intellectuel. Ça. Le féminisme qu'on dit militant, qui est une autre facette du féminisme, qui est davantage dans l'action directe, dans les manifestations, les performances, donc on veut déranger, on veut changer les mentalités. Je donne quelques exemples, les Femmes, dont vous avez certainement entendu parler, qui sont... en fait, c'est un groupe féministe d'origine ukrainienne qui est maintenant rendu international. Les féministes se réclament du féminisme radical. Elles se définissent comme étant des sextrémistes. Leurs actions sont démarquées par le fait qu'elles sont souvent seins nus avec des slogans écrits en noir sur la poitrine. Donc, elles renversent vraiment les discours dominants parce que quand on expose souvent les seins des femmes, la poitrine des femmes dans la publicité, dans la pornographie, exemple, c'est souvent pour faire vendre. Donc, le corps des femmes est toujours soumis à des principes économiques. Donc, ici, on est vraiment affranchi de tout ça. On veut vraiment montrer le corps des femmes avec le message subversif qui vient avec ça. Les Pussy Riot aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un groupe punk féministe russe. Il y a trois de leurs membres qui ont été arrêtés en 2012, je crois, oui, pour la prière punk qu'ils avaient fait dans une église orthodoxe. Donc, elle vise à attirer l'attention sur les droits des femmes en Russie. Les trois membres ont été libérés depuis. Au Québec, le collectif féministe Les Panthères Rouges, qui est un collectif féministe subversif, qui sont vraiment dans l'action directe, dans la performance. Leur objectif, c'est de dédramatiser, voire de poétiser tout ce qui relève du corps féminin. Récemment, ils ont fait une performance au Parc La Fontaine à Montréal. Ils ont mis une petite corde à linge avec des sous-vêtements tachés de sang menstruel. Ah, c'est dégueu. Mais non, c'est justement pour arrêter de dire que c'est dégueu, pour enlever la honte qui est liée toujours au corps féminin et aux menstruations. Donc, ils cherchent vraiment à changer l'approche, les mentalités par rapport à ça. La Slut Walk, ou la Marche des Salopes en français, qui a pris naissance à Toronto en 2011. Vous savez, la Slut Walk vient du fait qu'il y a un officier de police, à un moment donné, en 2011, qui a dit que pour diminuer les risques de viol, et je le cite, « les femmes devraient éviter de s'habiller comme des salopes ». Donc, ça a créé tout un tollé. Donc, il remettait vraiment la culpabilité sur le dos des femmes plutôt que de faire comme il se doit et d'accuser les agresseurs, d'être les criminels dans ces histoires-là. Donc, la Slut Walk, en fait, le lendemain de ces paroles-là exprimées par l'officier de police, il y a des femmes et des hommes qui sont descendus dans la rue et c'est de là qu'est née la Slut Walk. Donc, les femmes descendaient et paradaient dans la rue en sous-vêtements, en mini-jupe pour montrer que c'est pas parce qu'on s'habille de telle ou telle façon. Les femmes ne peuvent pas provoquer leur propre viol. Bref, c'est ça qu'elles voulaient dire. Et il y a vraiment un renversement avec leur slogan. Donc, ne nous dites pas comment nous habiller, dites-leur de ne pas nous violer. Donc, vraiment de remettre les pendules à l'heure et de montrer que les femmes ne sont pas responsables de ça. Ensuite, autre facette du féminisme, le féminisme plus pop, qui est réclamé par certaines stars, des femmes qui ont un certain capital de popularité, comme les actrices, les chanteuses, donc Beyoncé qui a fait un spectacle avec en grande lettre là, le terme féministe, Taylor Swift, Emma Watson qui est maintenant aux Nations Unies, et Lena Dunham. C'est une branche du féminisme qui est assez controversée dans le milieu même du féminisme. Il y a certaines femmes qui le trouvent utile parce que, bon, ça fait connaître la cause féministe à des gens qui peut-être ne s'y intéresseraient pas autrement. Il y en a d'autres qui le trouvent nuisible, qui trouvent que le mouvement féministe est en quelque sorte instrumentalisé par ces femmes-là. Donc, c'est davantage un coup de marketing. Donc, il y a des débats quand même à ce niveau-là aussi. Donc, voilà pour les différentes facettes du féminisme. J'aurais pu parler aussi d'anarcha-féministe, de féminisme queer, Mais peut-être que tout à l'heure, durant la discussion, on pourra en parler davantage. Et j'en arrive finalement à aujourd'hui. Donc, pourquoi être féministe en 2016? On peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont progressé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les acquis, par exemple, des femmes restent fragiles en contexte néolibéral, d'autant plus en contexte d'austérité. Les mesures d'austérité touchent davantage les femmes. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en parlais tout à l'heure, le livre de Rélie Lanco, son essai libéraux n'aime pas les femmes, qui montre à quel point les coupures et les mesures d'austérité affectent vraiment les femmes en premier. Donc, le gouvernement coupe dans les services publics et dans les emplois qui sont occupés majoritairement par les femmes. Il y a des coupures dans les services de garde qui affectent encore une fois les femmes parce que c'est encore elles qui ont la charge des enfants. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Les luttes aussi à faire encore une fois pour la violence contre les femmes. Vous savez qu'une femme sur trois va être victime de violence au cours de sa vie, donc c'est un tiers de la population, un tiers des femmes, donc c'est énorme, c'est une violence qui est endémique, qui est systémique. Et ça a pour conséquence la peur. Donc, des femmes ont peur de sortir seules le soir, elles ont peur de rentrer. C'est peut-être pas nécessairement le cas à cette femme, mais demandez aux femmes qui habitent au centre-ville de Montréal, demandez aux femmes qui habitent au centre-ville de Vancouver. Ce n'est pas normal d'avoir peur de sortir le soir, c'est pas normal d'avoir peur de rentrer chez soi. Mais c'est une peur qu'on a appris, avec laquelle on a appris à vivre, qu'on a intégrée, qu'on a incorporée, qu'on a appris à considérer comme normale. Mais c'est pas normal que dans un pays en paix, les femmes aient autant peur de se promener dans la rue. Ce n'est pas normal, je le répète. Et cette part-là, donc, diminue de façon dramatique la mobilité des femmes, ça diminue leur présence aussi dans les espaces publics, et le fait de se sentir toujours vulnérable diminue aussi notre autonomie. On parle aussi de plus en plus de féminicide. Qu'est-ce que c'est un féminicide? C'est le meurtre d'une ou plusieurs femmes en raison de son sexe, donc une femme qui est tuée parce qu'elle est une femme. Par exemple, les avortements sélectifs, vous savez qu'il manquerait en fait aujourd'hui plus de 160 millions de filles dans le monde en raison des avortements sélectifs en Inde et en Chine, entre autres, les crimes sexistes, les crimes d'honneur, les génocides de femmes. Vous savez que la première cause de mortalité dans le monde chez les femmes de 16 à 44 ans, c'est la violence machiste. La première cause de mortalité des femmes. Au Canada, des fois, on a l'impression que ça peut être très loin, justement, ce terme-là de féminicide. C'est un mot qui est né notamment avec, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en ce moment à Ciudad Juárez, au Mexique, il y a énormément de meurtres de femmes, il y a énormément de femmes qui sont disparues. Et donc, ça a commencé vraiment à se discuter à partir de ce cas-là. Mais au Canada, on a un tragique exemple de féminicide, le cas des femmes autochtones. Donc, vous voyez, plus de 1200 femmes autochtones disparues ou assassinées dans les dernières années. Et pendant 10 ans, le gouvernement a refusé de mener une commission d'enquête pour faire la lumière sur ces cas-là. On parle de plus en plus qu'il y aurait des policiers blancs qui seraient pourraient être responsables de crimes qui ont été commis envers ces femmes-là. La bonne nouvelle à ce jour, c'est que le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il allait rouvrir une commission d'enquête si peu. Donc voilà, donc ça montre la persistance de la violence contre les femmes et surtout envers les femmes les plus vulnérables. Donc je parlais tout à l'heure d'intersectionnalité avec le black feminism, tout ça. Donc c'est les femmes autochtones qui sont dans des positions extrêmement précaires, extrêmement vulnérables. Donc la violence est d'autant plus importante à ce moment-là. Et il faut savoir aussi que la persistance de la violence qui est faite aux femmes ne vient pas nulle part. Elle s'inscrit dans une culture. Une culture qui, dans laquelle on baigne est imprégnée de cette violence-là, voire elle est bâtie sur cette violence-là. La violence sexuelle dans notre culture contemporaine, elle est banalisée quand ce n'est pas proprement parlé, érotisée. Donc, vous voyez, c'est presque rendu désirable d'être violenté. C'est de cette façon-là que la publicité nous montre les rapports sexuels, les rapports hommes-femmes. Donc, que ce soit dans la publicité, au cinéma, bonjour, merci d'avoir été là. Merci. Donc, que ce soit dans la publicité, au cinéma, dans la pornographie, quand on s'attarde un peu, on se rend compte que nos représentations culturelles sont de plus en plus violentes envers les femmes. Et ce genre d'image-là participe à ce qu'on appelle désormais la culture du viol. C'est quoi la culture du viol? C'est une culture qui, avant tout, qui banalise le viol, qui prend pas au sérieux la gravité de ce crime-là, qui met en doute la parole des victimes, qui va excuser en quelque sorte les agresseurs en mettant la faute sur le dos des femmes. Donc, elle était saoule, elle avait bu, oui, mais elle a déjà eu plusieurs partenaires sexuels, c'est une fille facile, elle est habillée de manière provocante. Donc, c'est des discours qu'on entend vraiment encore beaucoup dans les procès pour viol, quand il y en a. Vous savez qu'il y a seulement 10% des viols qui sont rapportés à la police. On demande demande encore aux femmes comment elles étaient habillées au moment du viol. On leur demande encore qu'est-ce qu'elles faisaient dehors à cette heure-là. Donc, c'est encore les femmes qui sont tenues responsables de leur propre viol. On a eu un bon exemple avec le procès Gomeshi dernièrement. Dans un autre ordre d'idées, j'y arrive à l'équité salariale, mais juste avant, la lutte pour le plein droit à l'avortement n'est pas entièrement gagnée non plus. Dans les autres provinces canadiennes, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à l'avortement. Le nombre de cliniques qui pratiquent l'avortement est totalement insuffisant pour desservir les femmes qui désirent avoir une interruption de grossesse. Et c'est souvent beaucoup trop cher aussi pour la majorité des femmes. Donc, l'avortement, oui, est accessible, mais demeure encore un privilège de femmes économiquement aisées. La question de l'équité salariale n'est pas gagnée non plus. Les femmes gagnent environ 90 % du salaire des hommes. J'ai mis quelques graphiques que j'ai pris sur le site de Statistique Canada. Donc, on voit que pour les mêmes études, pour faire le même métier, donc ça joue entre 65 % et 91 %. Donc, les femmes gagnent environ un certain pourcentage du salaire des hommes. Pour ce qui est, par exemple, femmes et hommes qui ont une formation universitaire, les femmes vont gagner encore 91 % du salaire des hommes. On est toujours dans le moins. Formation collégiale, les hommes ont gagné environ 29 $, tandis que les femmes gagnent 25 $. Donc, il y a quand même un écart assez important de ce côté-là. Les femmes sont moins bien représentées partout. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série de photos qui circulent dernièrement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, on essaie de montrer comment dans les hautes sphères du pouvoir, les femmes sont souvent seules et seulement entourées d'hommes. Donc, vous voyez, dès qu'on efface les hommes, ça a l'air complètement fou. Je veux dire, les femmes sont seules. Il y a vraiment on n'a pas la parité, là, clairement. Vous voyez Hillary Clinton qui est entourée d'hommes. Si on exclut les hommes de cette photo-là, elle est seule. Et même chose ici. Voilà. Donc, c'est comme ça en politique. C'est comme ça aussi dans les festivals. Vous avez peut-être vu ça passer aussi à Chicago l'année dernière. Je ne me souviens plus c'est qui a décidé pour montrer que de moins en moins de groupes féminins étaient invités dans les festivals, donc d'effacer les groupes où il n'y avait pas de femmes. On aurait même pu continuer le travail parce que souvent, dans les groupes qui sont restés là, il y a souvent juste une femme pour 5 musiciens hommes, par exemple. Donc, on aurait pu encore diminuer. Et ça a un impact, ça se compte en argent, c'est un impact économique. Quand vous achetez votre billet pour Chicago, quand vous achetez un billet pour un festival, il y a une partie de cet argent-là qui va dans la poche des groupes. Donc, moins les femmes vont être invitées, moins elles vont avoir de moyens, moins elles vont créer. Donc, elles vont toujours être de moins en moins représentées. À mesure que les femmes s'affirment et prennent leur place, il y a des résistances, des préjugés qui prennent forme, dont l'antiféminisme. Qu'est-ce que c'est l'antiféminisme? Je sais que vous allez avoir une présentation un peu plus tard cette semaine, juste pour donner un petit aperçu. L'antiféminisme, donc, c'est différentes attaques qui ciblent les mouvements féministes qui s'opposent aux avancées des femmes et qui visent à discréditer les femmes et à les faire taire. C'est souvent une contestation très violente. Je suis allée chercher une citation sur un site qui est mené par Sarah Labarre qui s'appelle Les Antiféministes. Donc, Samuel Barbeau, vous savez, quand il y a eu la controverse de Brunson à Chicago, il y a des femmes qui se sont opposées à sa venue. Donc, Samuel Barbeau qui dit dans un français impeccable « Gang de chiennes enragées qui cancelle Brunson à Chicago, arc, bande de putes finies, vous devriez vous faire rape, puis pour vrai, vous auriez moins de vraies raisons de chialer, hashtag féminazie, ma tante, pute chair fraîche. » Donc, c'est toujours extrêmement, extrêmement violent, ça ramène toujours à la sexualité des femmes, toujours au corps des femmes. Donc, ça reste un danger très, très notable, l'antiféministe. Donc, à mesure que les femmes prennent leur place, il y a toujours cette espèce de force-là qui les ramène à leur place, qui les ramène à l'ordre. Il va falloir que je m'approche. Moi-même, j'ai de la misère à lire. Il y a une nouvelle page qui s'appelle « Femmes sur le web », merci. Donc, qui fait le recensement des commentaires que les femmes reçoivent. Donc, ici, à gauche, on voit « Toi puis ta gang de violer au boulag, même la chambre à gaz, sale féminazie. » Et à droite, au fond, t'as juste envie de te faire violer, rassure-toi, ça va finir par arriver. C'est toujours extrêmement menaçant, extrêmement violent. Ça fait en sorte que les femmes ont de plus en plus peur de s'exprimer sur la place publique. Donc, c'est vraiment... je suis désolée de vous montrer ça aujourd'hui. C'est vraiment... Mais c'est la réalité. Puis c'est sûr que ça fait mal quand on regarde, mais il faut le savoir, puis il faut agir contre ça. Merci. Et finalement, je vais terminer là-dessus. On demande souvent... reçues par rapport à ces luttes-là. Faut dire que c'est pas toutes les féministes qui s'entendent pour déterminer quelle est la place des hommes dans les mouvements féministes. Je peux vous dire ce que j'en pense personnellement. Je pense que les hommes ont leur place tout à fait dans les mouvements féministes, aux côtés des femmes. Je pense que le féminisme a besoin de tout le monde, femmes et hommes, pour atteindre l'égalité à tous les niveaux. Cela dit, je pense quand même que ça prend encore des espaces non mixtes, surtout en ce qui concerne la violence contre les femmes, donc les CALAC, les maisons d'hébergement. Je pense que c'est important que ce soit encore des espaces qui sont non mixtes pour s'assurer que les femmes se sentent à l'aise dans ces espaces-là. Il y a eu des manifestations féministes à Montréal aussi, il y a eu certaines controverses, donc les hommes voulaient être en avant avec les femmes. Des fois, je pense que c'est quand même important que ce soit une lutte qui soit menée par les femmes, que ce soit elles qui soient en avant. Donc, tout au long de la présentation, vous voyez que les femmes n'ont pas beaucoup, ne prennent pas beaucoup de place encore dans l'espace public. Donc, je pense que c'est quand même important d'être en avant et de mener, en fait, cette lutte-là de front. Voilà. Et on me demande aussi, bon, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'homme pour aider la cause des femmes? Donc, c'est ça, nous supporter vraiment dans notre lutte. Mais vous informer aussi, parce que en tant que féministe, on lit beaucoup, on milite. Mais ça devient, à un moment donné, ça devient lourd aussi de devoir toujours expliquer, éduquer, toujours expliquer ben, pourquoi ça c'est pas correct. Donc, aller faire son bout de chemin, aller lire aussi, aller lire les féministes, aller lire Simone de Beauvoir, aller lire Virginie Despentes. Il y a énormément de blogs féministes, donc allez les parcourir. Vous êtes au cégep, bientôt, soit vous allez être à l'université ou sur le marché du travail, vous allez être organisé des panels, des tables rondes, des réunions. Assurez-vous d'avoir la parité, assurez-vous que vous n'avez pas un panel seulement d'hommes. Je ne sais pas si vous connaissez la page Facebook Décider entre hommes. Donc, c'est vraiment terrible de ne pas avoir encore la parité en 2016. Donc, assurez-vous que les femmes sont représentées. Entre gars, des fois, il y en a qui l'échappent. Je veux dire, on est à un party, on a bu un peu, il y en a qui fait un truc un peu sexiste. Callez-vous entre vous, dites-vous, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a beaucoup de choses qui passent par le mot. On peut se cacher sous le couvert de la blague, faire comme un capote, c'est une blague, mais non, il y a énormément d'idéologies qui passent à travers le mot aussi. Quand on est en groupe, je pense que c'est important de laisser les femmes parler en premier aussi, de les laisser s'exprimer, de les laisser expliquer un peu c'est quoi être féministe pour elles. On n'aurait pas idée d'aller expliquer le racisme à un noir, par exemple. On n'aurait pas idée en tant que blanc d'aller parler de racisme avant quelqu'un qui est racisé. Donc, de laisser les femmes s'exprimer de ce côté-là. Et n'oubliez pas aussi que vous êtes en quelque sorte victime de ce système-là. On apprend aux jeunes garçons à camoufler leurs émotions, à jamais montrer qu'ils ont peur ou qu'ils sont vulnérables. On leur apprend encore une fois à ne pas pleurer. On leur apprend la vérité, la puissance, la dureté, avec évidemment toutes les conséquences que ça entraîne, à la fois individuellement et collectivement. Donc, de reconnaître ça, qu'on fait partie, que vous faites aussi partie de ce système-là, reconnaître ses privilèges et les utiliser finalement à bon escient pour faire avancer la cause des femmes. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je viens de voir l'heure, si on va avoir le temps de discuter un peu. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, je réponds des commentaires sur les vidéos. L'échange, il peut y avoir la discussion, il peut y avoir des discussions animées. Mais à ce moment-là, je ne parlerai pas d'antiféministe, je parlerai peut-être, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui vont se dire, bon, je ne me dis pas féministe, je me dis égalitariste. Et là, à ce moment-là, ça crée une discussion. Mais antiféministe, pour moi, ça porte toujours une charge de violence. Donc, c'est vraiment de ramener les féministes toujours à leur place. C'est vraiment un mouvement qui va contre le féminisme. Et c'est assez sans ça. Je ne vais pas dire que. Là, je vous ai montré des exemples extrêmes, vraiment, de ce que pouvaient dire les antiféministes.
C'est pas toujours.
Mais c'est sûr, là, je suis allée vraiment dans l'extrême. J'aurais pu parler de polytechnique, j'aurais pu parler de beaucoup de choses. Pour moi, l'antiféminisme, ses racines là-dedans, dans cette violence-là. C'est une charge qui est faite contre les femmes et contre les féministes davantage. Mais sinon, si on est plus du côté de la discussion, déjà quand il y a un échange, je ne parlerais plus d'antiféministe, je parlerais, je ne sais pas, de débat de société ou de débat de groupe. Mais ça dépend sur quelle définition du terme on parle. Mais voilà. Pour moi, l'antiféministe, c'est vraiment plus ça.
Dans quelle mesure les mouvements féministes pourraient aller à l'encontre de codes culturels? Par exemple, j'avais un exemple bien précis en tête, mais mettons que tu rentres dans un souper ensemble, ça va se faire un peu tout seul, je pense un souper du dimanche soir en famille, les femmes restent dans la cuisine, ils vont travailler, ils vont faire la manger, puis les hommes vont dans le salon à parler, c'est sûr, ça fait un peu 1950, là. C'est les hommes qui parlent de politique dans le salon, mais ultimement, c'est pas par de mauvaise foi, ou c'est un peu culturel, puis les fameux parties de cuisine, là. ça se fait naturellement, puis les femmes, je vois une femme qui serait peut-être un peu contre ça, qui rentrerait là-dedans, qui serait un peu obligée, ou du moins, qui rentrerait dans ces codes culturels-là, puis je me dis, je trouve que ça devient un défi, voire peut-être impossible, peut-être utopique, de travailler contre ces codes culturels-là qui sont excessivement ancrés, mm-hmm. puis qui ne sont pas de mauvaise foi. Je ne pense pas à ça en disant les femmes vont bien accuser de pantoute, là, c'est juste ça se fait un peu naturellement.
C'est le même système qui nous forme, c'est ça.
Instinctivement. Je ne vois pas plus systémique, mais vraiment culturel, là, ça vient d'un code dans le cognitif un peu, j'ai l'impression que ça vient excessivement difficile. Ou en tout cas, je vois pas de mouvement féministe qui serait capable, ou du moins qui. Pour ça, je te demande, en fait, là, je me demande.
Mais je pense que avec en parlant puis en prenant connaissance justement de ces codes-là, je sais pas les nommer.
Première chose, je sais pas les nommer.
Des fois, c'est difficile en famille parce que bon, il y a une charge émotive aussi qui vient à travers ça. Mais je pense qu'en parlant, en faisant des remarques ici et là, parce que tu dis ça faisait années 50, mais c'est encore un petit peu comme ça. C'est encore un peu comme ça. C'est sûr que ça se mélange de plus en plus, mais la cuisine est encore aux femmes, puisque le salon est aux hommes. Mais je pense qu'en en parlant, je pense pas qu'il y a rien qui est inatteignable. Je pense qu'il y a certains codes qu'il faut revoir, il faut en parler, il faut inviter les hommes à venir à la cuisine. Puis pas juste pour donner un coup de main, mais avoir l'initiative, genre même de le faire. C'est pas juste faire « est-ce que tu viens m'aider? » Mais non. Pourquoi m'aider? Pourquoi tu serais pas celui qui prend les deux?
Ça devient un service, là, au pire, le pointer, puis après ça ne dérange pas. Mais
c'est ça. Mais je pense que le pointer, c'est déjà énorme.
Encore là, peut-être une forme moins blessante. Dans une telle situation, on s'entend que la personne, l'intégrité de la personne est certainement moins affectée.
Oui. Souligner une bonne chose, c'est pas toujours par mauvaise foi, justement. C'est le poids de l'éducation, c'est le poids de la culture. Tout le monde est soumis à ces codes-là. Mais d'en prendre conscience, puis au moins de le nommer, je pense que c'est comme ça, tranquillement, on arrive à défaire et à désamorcer ces vieux stéréotypes. Ouais.
Est-ce que vous avez vu le mémoire de maîtrise de Mme Stéphanie Lanty?
Non.
Okay. Parce qu'elle parlait, en fait, elle abordait la question du nationalisme au Québec, puis la place des femmes à l'intérieur. Même si vous l'avez connu, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus sur la compatibilité entre, par exemple, l'émancipation nationale et l'émancipation des femmes. Parce que je pense qu'il y avait aussi Sean Mills qui l'avait abordé avec la FLF, puis il y avait.
Ouais.
Je pense que Warren aussi l'avait abordé dans les années 60-70, comme quoi les femmes embarquaient dans ces mouvements-là révolutionnaires, mais finalement elles étaient quand même confinées à des tâches qui étaient plutôt traditionnelles, fait que finalement elles ne s'en sortaient jamais.
Ouais.
Et je ne sais pas, y a-t-il un moyen pour les féministes d'avoir une compatibilité entre deux idéologies, outre le féminisme est un combat, en fait, qui doit se mener tout simplement.
Ouais. Je pense qu'on a eu un bel exemple avec la grève de 2012. J'ai pas encore eu l'occasion, je sais pas si vous connaissez l'ouvrage « Les femmes changent la lutte », qui est paru au Remoulinage. Justement, les femmes dans le printemps arabe qui souhaitaient prendre leur place, mais qui étaient toujours confinées justement à des tâches de secrétariat, de tout ça. Elles ont proposé des moyens différents, elles ont proposé des manifestations féministes, justement pour prendre le devant, pour amener le mouvement, pour tenir le mouvement par elles-mêmes. C'est elles qui ont proposé aussi les tours de parole au micro, que ce soit pas toujours. Que ce soit encadré, qu'il y ait un homme, une femme, pour permettre les femmes de prendre davantage la parole. On remarque souvent dans les rassemblements, quand il y a des questions, quand il y a des commentaires, justement en assemblée, c'est souvent un homme qui va commencer à prendre la parole. La première question, elle est souvent les femmes osent moins prendre la parole, poser des questions. Donc, les tours de parole, je pense qu'il est important aussi. Pour ce qui est de la question du nationalisme, je pense que vous auriez davantage à m'apprendre que je pourrais. parce que j'ai pas lu les travaux de Stéphanie Lanty, mais c'est deux luttes qui sont pas, euh, qui qui sont très liés, je pense, parce que la question de l'oppression des sexes est très liée à l'oppression coloniale aussi. Mais oui.
Est-ce que vous disiez justement que c'était incompatible?
Que c'était incompatible?
Oui, c'était incompatible.
Parce que c'était davantage un mouvement mené par des hommes, non?
Le nationalisme passait en fait par la procréation, la survie.
Ben voilà, ben c'est ça.
Donc la femme,
c'est ça.
La
tâche nationaliste des femmes, c'est de faire des bébés pour augmenter la nation québécoise. Donc peut-être qu'à une autre époque, ça serait différent. Peut-être que justement en 2012, c'était probablement très différent qu'à cette époque-là. Mais il y avait encore des petites choses à améliorer.
Pourriez-vous spécifier quand vous dites que les femmes, que les hommes prennent plus facilement la parole dans les, comme par exemple ici, là?
C'est juste un constat.
Je remercie les jeunes hommes là, qui ont pris la parole. Ce serait plaisant que les jeunes femmes aussi, comme les vieilles aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très récent que les jeunes hommes s'intéressent aux questions féministes. Oui. Hein. Mais c'est vrai que vous êtes tous jeunes, hein, mais, parce qu'on peut dire qu'au Québec, quand même, il y a quand même eu des efforts qui se sont faits. Hein. Si on compare à d'autres pays, jusqu'aux États-Unis, par exemple,
oui.
Où abolir le fait d'avoir un avortement et tout.
Mm-hmm.
En tout cas, je voulais tout simplement remercier les gars d'avoir pris la parole.
Oui.
Tu as abordé tantôt pensée matérialiste et tâches domestiques, la rémunération des tâches domestiques. Est-ce que tu pourrais développer là-dessus?
Oui. C'est un débat qui est apparu dans les années 1960. Ça s'intéresse, je recommanderais de Nicolette Guillaumin, qui est une féministe d'inspiration marxiste, donc qui est une des premières à avoir pointé le fait, la division sociale, la division genrée du travail, en fait. Et donc, elle fait tout l'historique avec le contrat de mariage. Donc, les femmes sont appropriées par le contrat de mariage. Les hommes, par le fait du mariage, s'approprient une main-d'œuvre gratuite, finalement. Donc, ce qui permet aux hommes de travailler et d'avancer, c'est le fait qu'il y a une femme à la maison qui élève des enfants, qui fait le ménage, qui s'assure que tout va bien à la maison. Et c'est ce qui a permis, justement, c'est ce qui permet en contrepartie aux hommes de vraiment avancer davantage dans la sphère politique parce qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper de ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans la sphère privée. Et donc, et c'est un travail. Donc, et les femmes, parce qu'elles sont confinées au travail domestique, elles n'ont pas le temps de sortir et d'aller travailler. Là, je parle des années 60, des années 50, 60. Elles n'ont pas le temps de sortir travailler parce qu'elles doivent s'occuper de la maison, elles doivent s'occuper des enfants. Et elles travaillent tout le temps. Il faut reconnaître en fait que c'est un travail, je pense, parce que c'est ce qui les empêche de sortir. C'est un travail qui se fait 7 jours sur 7, des longues heures par jour. Et c'est ce qui fait en sorte qu'elles n'ont pas de moyens financiers, elles sont subordonnées économiquement à leur mari. Et donc voilà, donc c'est leur travail, c'est le travail qui revient de façon soi-disant naturelle. Mais donc voilà, c'est ce qui les empêche de s'émanciper, finalement, le fait d'être confinés à la maison. Et je pense avec Colette Guillaume, justement, que ça devrait être un travail rémunéré d'être à la maison.
C'est un
travail invisible.
Excusez, sans compter les dots que les femmes apportaient aussi au travail.
Oui, voilà.
Puis il y a des études aussi qui ont été faites sur le fait l'économie que les hommes font par rapport aux femmes qui travaillent à la maison.
Oui.
Parce que la femme, mettons, je vais repasser, elle va aller faire une épicerie, bon, patati patata. Et pendant tout ce temps-là, l'économie familiale, je ne sais pas, je pense que ça frise comme les 80 000 par année, l'économie.
Mm-hmm.
Oui.
Voilà.
Vous pensez quoi la parité en tant que féministe, par exemple, la parité ministérielle, est-ce que vous voyez un peu comme espèce de faux couvert féministe dans le sens où est-ce que c'est un peu le maximum que vous allez pouvoir avoir, c'est une parité. Moi, un peu, je vois cette façon-là dans le sens où souvent je dis, tu sais, je suis contre la parité, mais les gens sont comme, mais voyons, mais dans le fond, tu sais, ça pourrait être plus de femmes, plus d'hommes, on s'en fout au niveau, tu sais, tant qu'ils sont compétents. On dirait, je trouve que c'est un peu ambivalent l'utilisation de ce concept-là, dans le sens où on dirait qu'on vous dit, ben, c'est votre plafond, ça, c'est le maximum que vous allez pouvoir avoir. Mais, putain, tu sais, je sais que souvent on va l'utiliser pour vendre ça de façon positive, mais dans le fond, c'est imposer pratiquement un plafond aux femmes.
C'est vrai. De cette façon-là, oui. Je pense qu'on n'est pas rendu là, par exemple. On n'est pas rendu à avoir plus de femmes que d'hommes dans les positions de pouvoir. Là, je pense, en parlant, je pense qu'elle est nécessaire, la parité. De mon côté, il ne faut pas qu'elle soit... faut pas que ce soit la seule chose, par exemple. Il ne faut pas que ce soit la seule initiative d'un gouvernement. Mais tant que les femmes vont être représentées, je pense qu'on n'aura pas le choix d'avoir des politiques de parité pour s'assurer que les femmes accèdent autant que les hommes aux postes de pouvoir. Souvent, ce qui me dérange avec ça, c'est des fois les contre-discours qui arrivent, qui demandent « Mais est-ce qu'elle était engagée juste parce qu'elle était une femme? Est-ce que c'est justement juste sous le couvert de la parité qu'on a engagé une femme? On n'aurait jamais dû questionner la compétence d'un homme qui pourtant, pendant des années, il n'y a eu que des hommes dans les positions politiques. On ne s'est jamais dit « Mais est-ce qu'il était engagé juste parce que c'est un homme? » Le discours inverse ne tient pas la route. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas justement cette représentation égale des femmes, ça va prendre des politiques de parité, je pense, personnellement, pour s'assurer que les femmes puissent intégrer ces positions-là, apprendre, parce qu'on les a tenues éloignées tellement longtemps de ces postures-là qu'il y a un travail d'intégration avec l'intégration, mais aussi l'éducation, l'apprentissage du travail. Mais si on n'a pas ça qui protège les femmes, je pense que... Mais ça peut jouer à l'inverse, comme tu dis, parce que c'est imposé. Tant que ça ne devient pas un plafond...
Parce qu'actuellement, je suis créatif dans le niveau de la parité, mais si on regarde les postes importants, je pense qu'il y a beaucoup de, malheureusement, ministres femmes qui ont autant de responsabilités qu'en apparence.
Oui.
J'avais vu un
je comprends. Mais en même temps, l'important, c'est que ça demeure un choix. C'est qu'on le fait de rester à la maison, d'aller travailler, il faut que ce soit un choix. Mais quand je pense à ça, je pense surtout, je reviens un peu en arrière, j'ai moins pensé dans son actualité aujourd'hui, le salaire du travail ménager. Mais je pense qu'à une certaine époque, ça aurait été nécessaire parce qu'il n'y avait pas d'autre avenir pour les femmes. Aujourd'hui, il faudrait creuser un petit peu plus la question, mais je pense que la question du choix doit être là.
C'est une mesure qui est souvent apportée, par exemple, par la vécu de Mario Dumont, donc dans des partis plutôt conservateurs, où il y avait justement, parmi les militants, des femmes très traditionnelles,
mm-hmm.
qui ont donné certains discours anti-féministes. Et c'est là où moi, ça me fait peur.
Ouais, je comprends.
Je me disais juste, Roxane, à ce moment-là, moi, peut-être que je vais faire maison.
Mais l'actualité du débat est à avoir, par exemple. Parce que quand c'est vrai que c'est une lacune dans mon discours, parce que quand je pense que ça va se faire ménager, je pense surtout à l'époque de Guillaume, justement, qui trouvait dans les années 70, quand les femmes n'avaient pas le choix de rester à la maison, et à ce moment-là, si elles n'ont pas le choix, bien, autant rémunérer ce travail-là. Mais ce qui aurait peut-être fait en sorte de conforter aussi les femmes dans ce rôle-là, mais au moins qu'elles ne soient plus subordonnées à leur mari. Tu sais, si le travail ménager les amène à avoir un salaire, bien, au moins si elles veulent s'émanciper, bien, elles ont le choix de partir, parce que sinon elles devraient rester à la maison, parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se payer une maison seule ou peu importe. Je pense que les femmes ont encore la charge, en grande partie la charge des enfants. Donc, si elles ne peuvent plus se permettre de payer les services de garde, mais souvent, c'est ces codes culturels-là qui nous amènent à faire en sorte que c'est les femmes qui vont rester davantage à la maison pour s'occuper des enfants. Oui, bien sûr, ça change de plus en plus. Il y a les congés parentaux, les pères peuvent rester à la maison aussi, mais c'est des congés beaucoup moins longs. Donc, ça fait en sorte que c'est encore les femmes qui sont associées à la maternité, associées à la garde des enfants. Mais je t'invite à lire, si ça t'intéresse, le livre d'Aurélie Lanco, c'est vraiment la démonstration avec, de manière statistique. C'est vraiment,
j'avoue que le lien avec la stérilité m'avait un peu brûlé aussi, dans le sens où, si on veut aussi atteindre une parité, mettons en premier, comme un peu le truc de l'Oréal, si on veut aussi avoir notre parité avant, mais là, la stérilité, elle aurait fonctionné dans le sens que tu fais des programmes où tu as besoin de couper, puis ça va affecter autant les hommes que les femmes, puis
mm-hmm.
déjà la parité.
Mais
là, il y aurait fallu faire une austérité parité, tu sais, de regarder les programmes, puis de dire, bon, il faut affecter 50% des hommes et des femmes. Là, on perd vraiment de vue, tu sais, c'est quoi le projet politique.
Mais là, la parité, elle n'est pas là, non. Et puis, quand on regarde, par exemple, dans le système de santé, ben, c'est en majorité des infirmières,
c'est
en majorité des médecins hommes. Donc, il y a d'un côté coupure, avec toute l'augmentation des tâches que ça implique, l'enseignement primaire qui est encore mené en majorité par les femmes. C'est pas de dire que ça touche juste les femmes, c'est de dire que ça touche en majorité
des femmes. En tout cas, quand j'aurais demandé à ça peut être un petit peu plus poussé dans le sens où il y a d'autres choses plus systémiques à régler. Et ensuite,
ouais.
on n'aurait pas à se poser la question de l'austérité si leur premier débat.
Voilà. C'est le déséquilibre qui fait en sorte que les mesures d'austérité sont davantage nuisibles.
Merci beaucoup.